podcast.com. Essaye ça.
Wow! Salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, votre rendez-vous hebdomadaire pour jaser Magic the Gathering en québécois. Je suis pas tout seul, un petit peu comme à chaque fois, ça fait des meilleures choses. J'ai sorti mon nounours, mais on s'en fout un petit peu. Il y a François Lompré qui est là.
Salut les magiciens!
Il s'est rappelé sa tagline. C'est, on a Jason aussi qui est là.
Hey, bonjour!
Et Emmanuel Côté-Séguin, directement de l'est de la ville, mesdames et messieurs.
What up?
Ce soir, je pense qu'en fin d'émission, on va parler du Zendikar Rising Championship. C'est une petite affaire de même, mais en début de show, on a décidé que, d'ailleurs, c'est au son de la musique de Minecraft. Hein, c'est parce qu'on sait qu'elle, elle est, comment on pourrait dire, dépourvue de droits d'auteur. Moi, en fait, tournant 2012-2013, je travaillais pour Machinima, qui était à l'époque un des plus gros conglomérats de créateurs de contenu sur YouTube. Et le fait à cette époque-là, beaucoup que Minecraft avait mis bien au clair que jamais il était pour achaler aucun créateur de contenu s'il utilisait leur jeu pour faire des affaires en ligne. Ça l'a vraiment beaucoup aidé la popularité de Minecraft. Mais là, ces temps-ci, tu sais, d'ailleurs, à l'époque, Nintendo était très anal avec ça. Mais ces temps-ci, il y a une espèce de retour. En toi, Emmanuel, tu dis que c'est le DMCA Act.
Ouais, c'est le Digital Millennium Copyright Act, là, je pense, là, je ne sais pas les termes exacts, mais c'était aux États-Unis. Là. Depuis une couple de mois, là, c'est le bordel sur Twitch avec ça. Là, les créateurs de contenu se font flaguer. Mais tu parles des créateurs de Minecraft, tout ça. Là, c'est beaucoup sur la musique, là, sur les droits d'auteur musicaux. Puis, moi, ce que j'en vois, c'est pas nécessairement les artistes comme tels qui vont chercher, qui disent « Hey, allez les poursuivre, les pas fins sur Internet utilisent ma musique en background pour pendant qu'ils jouent à World of Warcraft ou whatever. » C'est les avocats.
C'est une batch d'avocats qui ont parlé à une batch d'avocats de l'autre bord puis ont dit « Ça vaudrait la peine de mettre tant de milliers dans des robots pour détecter. » Après ça, il se passe ça. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'il y a des tunes en background dans Terrain Basique et c'est quelque chose auquel je tiens en tant que geek mordu de cet aspect de la musique qui existe et qui est peut-être mal connu. On va voir c'est quoi qui arrive à long terme. En attendant, ça explique le Minecraft aujourd'hui, qui est une toune qui est quand même très, très d'ambiance et à propos, parce qu'on commence relax ce Terrain Basique. Hein. Il y a comme un petit tour de table qui va se faire. Moi aussi, j'ai des affaires à raconter. Hein. Qui c'est qui veut commencer?
Ben, toi?
OK, moi, en fait, ces temps-ci, j'ai comme de l'argent pour la première fois de ma vie, là, que je me souvienne. Puis je me suis rendu compte que avec de tout ça, ce que je faisais, c'est que j'achetais des BD puis des cartes de Magic. Tu sais, j'ai laissé le... Il y a plein de vieilles BD que je voulais, que je me suis acheté. Puis là, ben, je me suis acheté un Preacher de cartes de Magic.
Oh!
On avait parlé dans The Dark.
Oui.
Puis Chris, j'en avais un de ça dans le temps, puis je savais pas quoi faire avec. Puis, oh, fuck, je m'en achète un deuxième. Puis j'ai checké, puis j'ai vu qu'il y avait un vendeur italien qui faisait à l'équivalent de 30$ plus 10$ livré chez nous. Fait que je n'ai acheté un.
Puis il est italien ou il est en anglais?
Comment?
Il est italien ou anglais?
Ah, il est en italien.
C'est un preacher en italien?
Ouais, pff, écoute, c'est cool. Je vais s'en rappeler.
Ouais,
Fun fact, The Dark, qui a été traduit en italien, c'est la première fois que Magic traduisait un set dans une autre langue. Ils ont traduit Legend, qui était sorti avant The Dark, ils l'ont traduit en italien plus tard dans l'année, mais le premier set qui a été vendu en dehors des États-Unis puis du Canada de Magic the Gathering, c'est The Dark en italien en
1994. Fait que le premier autre langage de Magic, ça a été
l'italien. Tu sais, on pourrait penser que c'est français ou whatever, ou espagnol.
Je me souvenais, j'avais poigné une carte dans le temps, puis elle était en italien, justement, puis c'était Artefato Versaglio. Puis le mot Versaglio, Je l'ai vraiment trop dit souvent dans ma vie sans que je sache c'est quoi ça.
Sans savoir trop trop, ça veut dire quoi.
Ben, c'est ça, Artefato Versaglio, puis Tapa Una Artefato Versaglio. Fait que pour moi, ça veut dire quelque chose comme Target. Là,
ben. Ben pour nous autres, c'est pas si pire, vu qu'on parle en français, les langues latines, tu sais, des fois, quand les spoilers commencent à sortir, ils sortent en différentes langues selon qui est désigné pour les sortir. Puis là, tu peux voir comme le scan de la carte en italien. Puis des fois, c'est pas trop pire à essayer de déchiffrer un peu ce que ça veut dire, parce que ça se rapporte un petit peu.
L'italien, l'espagnol, ce qui parle aussi qui a de l'allure en Belgique.
J'ai acheté des Underworld Dream en italien parce qu'elles sont pas comme 200$ comme ça en anglais. Et j'ai payé 30$ chaque. Puis tu vois, c'est Sony del Mondo Soteranzo.
Ah, il saute Terranzo,
c'est un très long nom de carte pour une carte qui coûte 3 noirs.
Quand tu lis la carte, t'as vraiment l'impression de faire un spell, tu sais, le monde comprenne pas aussi.
Je fais des incantations.
Moi, ces temps-ci, je suis plus en phase d'acquisition. Là, j'ai pogné aussi l'affaire le Great Veil. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est des cartes de Eldraine qui ont un an et qui valent 50$. C'est fort.
Eldraine, c'est fort.
Oui.
Ça a défini, d'après moi, on va pouvoir s'en reparler au dernier épisode de l'année, là, mais ça a pas mal défini 2 années de standard.
Oh, absolument. J'ai vu un running gag que Eldraine domine tellement tous les tournois en 2020 que le running gag, c'est genre les tournois en 2020, c'est Throne of Eldraine puis Uro.
Ah, ben ouais.
Puis Amnat, mais tu sais comme. C'est pas juste ça, là, mais c'est surtout ça. Là.
La dernière fois qu'ils ont banni une Uncommon aussi, ça doit faire quand même pas mal longtemps. Là. Il y a peut-être le chat de la Follow Chat il y a une couple d'années, là, mais le Lucky Clover, je pense qu'il y a eu le chat aussi qui ont banni. Qui était
le Cauldron Familiar.
Le Cauldron Familiar, ouais.
Ça fait quand même 2 Uncommon de banni parce qu'il avait brisé le jeu. Écoute, Eldraine, ça a brisé le jeu en esti.
Mais ton Preacher, Tommy, tu vas mettre ça dans quoi? Preacher, pour nos auditeurs, là, c'est la petite créature blanche 1-1 qui vole les créatures de l'autre, tant que ton Preacher reste tapé.
Un colorless puis 2 blancs. En fait, j'ai un deck avec des affaires Taskmaster, là, 1 blanc, 2 colorless, 2-2, puis quand tu mets en jeu un monstre qui a un power de 2 ou moins, tu peux payer un colorless, puis j'ai une carte. J'ai 4... Voyons, Aether Vial, l'artefact qui coûte un colorless, que tu mets des tokens dessus. Puis tous les monstres du deck, à peu près, coûtent 3 de casting cost. Fait que le but, c'est d'un moment donné, fait que là, tu sors des monstres, puis là, tu peux piger des cartes. Puis tous mes monstres sont haste. Fait que là, si je peux sortir mon Preacher qui coûte 3 en instant, haste, quand je veux, je pense que je vais être confortable.
Tu vas voler bien les affaires?
Ouais, c'est ça. Puis avec du rouge, c'est quand même plus facile de trouver une manière profitable de sacrifier ton monstre. Fait que je suis stimulé. J'accumule des cartes et je sortirai des decks. J'ai aussi comme acheté le Oath of the Druid, là, je pense. C'est l'enchantement.
La carte de la semaine passée.
Oui, c'est Patrick. Ça. J'en ai trouvé un pas cher. Puis j'achète des cartes de Magic.
Il faut que tu joues à cette heure-là. Faut que tu
installes. Il va falloir un jour.
Regarde, moi, j'ai mon selfie stick avec mon téléphone. Là. Je suis au-dessus de mon Battlefield. Puis je peux jouer en webcam. Il faut que tu embarques, Tommy. Là.
Il est mal pris. Je suis sûr qu'il peut se joindre à nous.
Samedi,
là.
Samedi, il y a l'équipement qu'il faut. Puis quand j'ai un temps lousse, j'en profite. Là. Mais je vais m'en rappeler un jour. Ça va arriver un jour.
S'il vous plaît.
Hey, on passe à qui, là?
Frank.
Je peux même lancer, si tu veux.
Vas-y.
Oui.
Ben, je sais pas si vous aviez remarqué ça, mais j'ai comme passé à la TV, là, pas longtemps. J'ai comme parlé de terrain basique. Puis toi, Tommy, là.
Tu nous as amené avec toi.
Ouais.
T'es allé à un souper presque par... un souper avec mon ex.
À
table avec mon ex, sur les ondes.
À l'ancien TQS. Nouveau.
Puis, ancien V, ancien TQS, ancien Télé 4 saisons, le mouton noir de la télé. Là.
Allez voir ça, c'est vraiment drôle. Vous allez voir François Lompré qui...
Qui
fait un rappel à sa blonde qui joue beaucoup à Magic. Puis elle a dit « Ouais, t'es pas mal obsédé dans le temps avec ça. » Puis là, il dit « Pasteur, je fais un podcast là-dessus. » J'adore ça.
Tu peux pas se tromper. Hein?
À pas
changer. Ah oui, puis je me plains qu'elle a tout déchiré mes posters de petits fantômes de
Whiskey. Il dit « T'as tout déchirer mes posters des Avengers. Puis là, elle est comme... Je comprends pas pourquoi on s'est distancé. Puis là, comme Frank en face de comme, ben là...
T'as déchiré tous mes posters.
Ben là, c'est inexcusable.
T'as-tu partagé ça sur la page de Terrain Basique? Pourquoi?
Oui, ça a été mis, ça a été mis.
Ah ouais, mais Chris, pourquoi j'ai manqué ça? Peut-être que ben, je passe pas assez de temps sur Facebook.
Je t'enverrai le lien.
Ouais. Ouais, ouais,
on voit ta face en plus, Tommy.
Ben, fait que t'as fini ton point, toi?
Ben, je reviendrai avec d'autres affaires.
On checkera, c'est bon. Emmanuel, ou c'est qui a la face la plus taquine? C'est qui a le plus beau background? Jason.
Ouais, OK. Ouais. Ben moi, c'est vraiment drôle, là. Ces temps-ci, avec ma gang d'old school, on fait du Brawl. C'est comme un Commander Singleton à 64, mais que t'es obligé de prendre un des Elder Dragon comme Commander.
Okay.
Fait que c'est un tournoi qu'on fait en ce moment. J'ai pris Chromium. C'est la première fois de ma vie que je casse des Elder Dragon. Ça, c'est les gros 7-7 de légende, là, qui sont qui coûtent 8. Donc, Chromium, 2 colorless, 2 blancs, 2 bleus, 2 noirs pour un 7-7 flying avec Rampage. Puis, il faut que tu payes un Esper en mana à chaque upkeep, sinon, il crève. Puis, est-ce que, dans une game, je l'ai casté 5 fois. Fait que, tu sais, puis à Commander, t'as une taxe de 2 colorless de plus, là.
Tu payais quoi, 17 pour ton.
Ben, je l'ai cheaté aussi une couple de fois avec des Animated Dead, là, mais t'sais, on se comprend. Là. C'est ben juste oui. que ça coûte cher à gérer, puis c'est pas mal le fun. Là. C'est comique. Là. C'est comme, c'était, moi, je me rappelle quand on avait comme 12 ans, là, on était full impressionnés. Waouh, un 7-7 flying! Waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Avec plein de symboles de mana, voyons donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
Fait que c'est pas mal ça, là, je m'en vais jouer.
Y a-t-il un dragon plus. Qui est plus fort que les autres.
Ouais, ben c'est ça. Y en a 5. Il y a 5 Elder Dragons, c'est les Shards. Puis la plupart du monde s'entend que c'est Bolas qui est le plus fort parce qu'il fait vider la main de l'autre. Mais tu vois, j'ai joué contre un gars qui jouait Bolas justement. Puis tout le monde dit que Chromium, c'est le plus poche. Mais Chromium est Rampage 2. Fait que quand il bloque un Elder Dragon ou qu'un Elder Dragon le bloque, c'est Chromium, c'est le Elder Dragon qui gagne un combat contre les 5 autres, les 4 autres. Ah. Fait que c'est pas si le
ouais. Là, toi, là.
Ouais, décris donc Rampage.
Rampage, ben parce que c'est à partir de la deuxième créature qui bloque, là. C'est pas la première.
Non, Rampage, c'est quand il est bloqué, il gagne le truc.
S'il est bloqué par plus de créatures. Mettons que c'est un contre un, il y a Rampage, ça sert à rien. Si t'es Rampage 2, ça veut dire que si t'es bloqué par deux monstres, il est plus 2, plus 2. Si t'es Rampage 2 puis t'es bloqué par trois monstres, t'es plus 4, plus 4. T'es plus XX égal à ton Rampage pour chaque créature de plus.
Hey, t'as vraiment raison, ouais. Ouais, je me suis gouré. Bon, ben, c'est Chromium le plus poche, mais c'est pas grave. J'ai eu du succès avec.
C'est correct.
Mais ouais, non, c'est ça, ils ont chacun leur petite habilité. Là. Veille Victis, il se pompe. Paladimor, elle a Trample. Puis l'autre, c'est Arcade Sabot, il booste en toughness tes autres créatures. Fait que tu fais des decks de wall avec.
C'est une petite crise de gosse, hein, ça.
Dans le temps, parlant c'était... de.
Mais justement,
Commander, moi, tu sais, on s'est jasé un petit bout là, quand ils ont sorti le nouveau set de Commander qui disait on va pouvoir drafter Commander, puis on s'est tous regardé un peu comme comment on va faire ça, puis je pense pas qu'on ait reparlé depuis pour les détails de tout ça. Corrige-moi si je me trompe, Jason.
Tu m'as perdu.
On peut drafter Commander avec le nouveau set de Commander.
Oui, oui, Commander
c'était
Legend.
Encore un peu, c'était encore Legend, un peu nébuleux quand on s'en était parlé. Mais là, le set est sorti, les méthodes sont sorties. Fait que j'ai regardé ça, ça a l'air quand même pas mal intéressant. C'est dans le fond, ils ont comme conçu le set pour que ça soit draftable. Là, tu joues pas Commander, bien sûr, avec classique, là, avec un deck de 100 cartes, là, parce que ça marcherait pas. Là, tu te fais ces trois booster packs de 20 cartes chaque pour la draft. Tu te fais un deck de 40 cartes, de 60 cartes, pardon.
Ah oui.
Et puis, tu draftes deux cartes à la fois, là, un peu comme dans...
Ah ouais, ça, on en avait parlé.
Un peu comme dans Masters, là, puis ces trucs-là. Ça te permet un peu plus de cibler où ce que tu t'en vas, puis de te faire des lignes plus directes.
Les couleurs doivent se déterminer un petit peu plus tôt.
Parce que tu en as besoin à Commander, parce que la couleur, l'identité de couleur de ton Commander est super importante. Puis là-dessus, ils ont rajouté une règle, un keyword qui s'appelle « partner ». partenaire qui arrive sur tous les commanders qui sont monocouleurs dans le set. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de commanders qui sont multicolores, là, fait qu'ils ont une identité de couleur plus grande. Mais tous ceux qui sont monocouleurs, pour pas que tu sois pogné avec une seule couleur pour ta draft, ils ont tout le keyword partner qui fait que tu peux avoir deux commanders avec le keyword partner. Fait que dans le fond, tu choisis, mettons, un commander vert puis un commander rouge, puis là, tu as ces deux couleurs-là comme identité pour ton deck. Fait que ça retrouve un peu plus porte à tout ça. Fait que j'avais trouvé ça intéressant.
C'est une bonne twist, effectivement.
Ouais, puis sinon, pour le reste, tu joues avec 40 vies, les règles de command zone, de commander damage, tout ça s'applique comme dans une game de commander direct. Puis il y a des commanders aussi à différentes raretés, là, que t'es pas obligé que ton pick one, pack one, ce soit le commander, puis là, t'es pogné avec ça pour le reste de la draft. Puis même si, rendu à la fin, t'as vraiment pas de commander, ça a pas bien été, ou ça marche pas avec tes trucs, ils ont sorti une carte, une commune, qui est supposée, je pense qu'il y en a dans tous les paquets, qui s'appelle le Prismatic Piper, pour 5 colorless, c'est un legendary creature shapeshifter, fait que dans le fond, tu peux le sélectionner comme commander, puis il y a la couleur de ton choix quand tu le sélectionnes. Quand tu startes la game de Commander, tu dis OK, mon Prismatic Piper, il est bleu. Fait que là, tu sais, ça. Puis il y a Partner, évidemment. Fait que si tu as un autre Commander pour aller avec, tu peux avoir une deuxième couleur. Fait que c'est comme ton fail safe là, pour, pour oui, le là, jouer.
C'est une bonne manière de faire que ça se fait. C'est quoi, tu dis, tu draftes ça, c'est pas sur Arena, c'est pas.
Non, ça va être en papier. Vrai, fait qu'éventuellement, okay. Si on. On se revoit, on pourrait se faire une petite draft de ça. Ça a l'air intéressant.
On va se revoir un jour?
Non,
oui,
je pense pas.
Oui.
Moi, j'ai plus envie d'acheter une boîte de Throne of Eldraine. Moi, c'est un de mes sets préférés.
Je pense pas que le prix va dropper, ça, par exemple.
Mais c'est quoi le prix? C'est 200? Là?
Toujours mal. Classique.
Au de...
Booster.
On a chié que ça nous coûte 7 piastres chaque pour faire un draft à la place de 5.
Oui. Fait des mois qu'on n'achète plus.
Ouais,
moi, je n'achète plein, en tout cas. En tout cas, ça veut-tu dire qu'on a fini notre premier tour de table et qu'on en fait un deuxième? Moi, je n'ai pas d'autres sujets.
J'ai dit ce que j'avais à dire.
Okay. Ben, moi, je pourrais vous dire que depuis 7 ans, j'ai visité l'Abyss. Je suis allé au magasin.
Ah, ben oui, notre magasin affilié, l'Abyss.
Oui, oui.
Ouais, la nouvelle place, là.
Oui, oui. Ben, évidemment, il n'y avait personne, presque. Mais sérieux, c'est vraiment, vraiment grand. J'ai rarement vu un magasin de jeux de cartes et compagnie aussi grand que ça. Okay. Ils ont deux étages. Les deux étages sont de la même grandeur. En tout cas, c'est vraiment huge.
T'es impressionné, là.
Ouais, ouais, je suis
impressionné. C'est où, ça, 44-90?
Jean-Talon-S.
Ouais, ouais, c'est quoi? C'est pas loin du coin Pinneuf, ça?
C'est pas loin. C'est genre deux ou trois coins de rue après vers l'est de Pinneuf.
OK, ouais, ça commence à être
C'est un peu plus loin là, que le métro Saint-Michel. Là.
Ah, ça me rappelle, moi j'ai travaillé au buffet Jean Talon, au buffet Vichy, coin Jean Talon.
Ah shit!
Ouais, ça a été mon expérience avec des boss grecs qui hurlaient. C'est une des fois de ma vie que j'ai démissionné.
Ah ouais, ouais, ouais.
J'ai dit au gars, si tu lèves le ton, je m'en vais. Tu sais, la restaurant était loadée de monde.
Ah ouais?
Il m'a emmené en arrière, puis il a fait non, je veux pas crier. Puis là, il a fermé ses deux portes parce qu'il y avait comme un setting pour pouvoir crier après ses employés. Puis là, il a commencé à hurler dans ma face. Fait que là, j'ai fait bon, là, c'est ça. Fait que là, tu sais, j'ai déposé mon stylo, mon calepin sur la table. J'ai comme tout. Enlever mon tablier lentement en le regardant dans les yeux en riant, tu sais, puis il hurlait.
Wow.
Là-bas, je suis parti. Ça a été ma démission la plus flamboyante de ta vie. Après ça, il a fait un procès aux normes, puis on a eu plein d'argent à tout le monde, là, vu que c'est un esti de crosseur. Je sais pas si c'est encore eux autres qui s'en occupent, mais Tom puis Costa, écoute, je vous souhaite le mieux possible et j'espère que vous avez arrêté d'être des crosseurs. Ça, c'est ici, écoute, terrain basique. Tu y a-tu quelqu'un d'autre qui a d'autres affaires? Oui, salut!
j'ai une petite anecdote. Je suis tombé... je vais essayer de partager le screen. Je suis tombé sur... j'ai reconstruit mon deck de quand j'étais au secondaire. Il y a une période...
Chino qui va avoir trouvé le moyen d'être sur le show, pareil.
Ben oui! Ton deck de secondaire, ça?
Oui, oui, c'est ça. Puis ça m'a rappelé, tu sais, comme à notre mindset de quand on connaît moins Magic maintenant.
Ouais, ouais, ça me dit tout quelque chose, ça. C'est,
puis,
c'est parce que je suis tombé en fouillant dans ma collection. J'avais, ça, c'est une version digitale. Là, mais
chèvres, tout.
J'utilise, ben, j'étais comme, j'avais 4 Mountain Goat dans ma collection. Puis j'étais comme, pourquoi j'ai 4 Mountain Goat? Tu sais, si j'en ai 4, c'est que je les ai achetés individuellement. Là. Puis je comprenais pas. Puis là, ça m'a rappelé ce souvenir de quand j'allais à l'école secondaire. Mountain Goat, c'est un 1-1 pour un rouge qui a Mountain Wall.
Mountain Wall, dude!
Il peut pas être bloqué par quelqu'un qui a une montagne. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi j'ai ça? Puis ça m'a rappelé, vers 99-2000, je commençais à perdre intérêt envers Magic, mais la seule place que je jouais encore à Magic, c'était pendant la pause du matin à mon école secondaire. Puis le trick, c'était vraiment simple. C'était puisque la pause était seulement de 15 minutes, dans mon mindset d'adolescent, je me disais, faut que je tue la personne vite. Puis si je ne suis pas capable de la tuer vite, on va aller en draw parce que la cloche de la pause va interrompre la game. Fait que je vais avoir gagné moralement. Fait que j'ai bâti mon deck. C'était vraiment simple. Tu avais 4 Mountain Goat, 4 River Boa qui est Island Walk. J'avais pris le bet. Tout le monde joue soit avec du bleu, soit avec du rouge. Ils vont jamais être capables de me bloquer. Puis tout le reste de mon deck, c'était des Bloodloss, plus 4, moins 4. Giant Growth, plus 3, plus 3. Des Lightning Ball, puis des Fire Blast que tu sacrifies 2 montagnes pour faire 4 dégâts. J'avais même un Final Fortune que tu prends un deuxième tour, puis tu perds la game si t'as pas gagné la game à ton deuxième tour.
C'était all-in.
Ouais, ce deck-là, son méta, son metacall, c'est le contexte d'une pause au secondaire de 15 minutes. Puis je me rappelle, on jouait le plus loin possible dans la cafétéria pour pas que les filles nous voient jouer à Magic. Quelle époque!
Ah, c'est fini ce temps-là.
Descendons, c'est quoi le rubis médaillon? Ça te donne un rouge?
Ouais, j'avais ça dans ma collection. Mes spells rouges coûtent moins.
J'aime beaucoup ça. Moi, Final Fortune, c'est une carte que tu sors.
C'est, là, c'est vraiment fun.
Tu t'arranges pour pas que... En tout cas, c'est une bonne carte. Je le sais. Je le sais que c'est une bonne carte, moi. Est-ce qu'on a fini? Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres affaires à jaser? Je pense que ça va nous amener vers la carte de la semaine, tranquillement, pas vite. Hein? C'est une présentation, comme on vient d'en parler, de l'Abyss 4490 Jean Talon Est. Je pense que vous êtes mieux de prendre l'autobus depuis le métro Saint-Michel. Sinon, c'est une bonne marche. Fait que c'est peut-être pas la température idéale ces temps-ci. Mais vous pouvez aussi aller au www.labyss.com. Il est rendu avec Milan, en plus, qui travaille là, je pense.
Ah ouais?
Ben oui, ben oui.
Belle acquisition.
Ben oui, écoute, on est partout, hein, terrain basique, il grandit. Vous lui direz salut. Donc, on écoute le Beat à Bone, carte de la semaine.
Terrain basique a même déjà été au buffet Vichy.
Ouais.
On est partout. Ah, oh, c'est la fin du...
J'en ai mangé, tu mangeais là, moi.
Fait que c'est quoi la carte de la semaine?
La voyez-vous?
Oui.
Je présente pas le bon écran, oui.
Non, je le voyais, je te faisais comme d'introduction. Là.
Ah, c'est ça.
Là, on
ça,
le voit.
Je suis pas sûr,
c'est bon, ouais.
Là, on le voit, là.
Sur deux écrans, faut que je me gère. Bon. Ben oui, ben la carte de la semaine, spoiler alert, Shark Typhoon. Je comprends pas qu'on l'ait pas encore choisi comme carte de la semaine. C'est pourtant une carte qui est toute faite pour nous. Ça touche à toutes sortes de sensibilités qui nous rapprochent. Shark Typhoon qui était sorti avec Ikoria, hein, pour un 5 colorless et un bleu, un enchantement que... quand tu castes un non-creature spell, tu fais un Blue Shark Creature Token avec Flying, qui est un XX ou X et le Spell Converted Mana Cost du non-creature spell. C'est la façon la plus rare que cette carte-là est jouée. C'est rare que le monde vont la hard cast, comme on dit, là, vont la mettre sur le battlefield. C'est surtout pour sa deuxième partie que les gens la mettent dans leur deck. C'est un Cycling X, un colorless et un bleu. Donc, tu la cycles et quand tu cycles Shark Typhoon, tu crées un XX Blue Shark Creature avec Flying. Donc, si tu paye 4, ben, tu te fais une 2-2 tout en cyclant qui a Flying. Puis, ce qui rend cette carte-là très forte, c'est que tu sais, dans le fond, Cycling, c'est une habilité qui se fait à instant speed, qui se counter très difficilement à part quelques spells très, très pointus, là, genre Tail's End ou trucs là, tu sais, qui counter des habilités et des triggers. Des triggers, c'est très, très rare. Fait que, tu sais, ça, non seulement la carte se remplace en cyclant, mais ça crée instant speed, une créature, un bloqueur, un attaquant qui fly en plus, fait qu'il y a, du evasion. Là. Ça se joue beaucoup dans tous les decks contrôle, beaucoup. Mid-range aussi, là, parce que ça peut devenir la condition de victoire justement d'un deck de contrôle qui garde son mana ouvert pour faire des counterspells, du removal, puis quand il arrive à la fin de l'autre, il n'a pas utilisé ses counterspells ou qu'il se fait attaquer puis il a besoin d'un bloqueur. Là, c'est,
ouais.
Puis ça fait souvent sa seule créature, ça va être ça. Là,
c'est
des fois,
bon, là, pareil.
C'est très, 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 très fort, puis ça fait un beau petit clin d'œil
Sharknado.
On a parlé de ça, on a parlé. Pourquoi ça s'appelle Shark Typhoon? Hein? Pourquoi c'est pas Shark Storm ou Squall Nado? Genre,
The Return.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et là.
Ça, cette carte. Vous vous rappelez quand je chialais notre épisode des deux ans, là, quand je chialais contre Walking Dead dans Magic? Là. Ouais. Ça, quand cette carte-là est sortie, je me rappelle, là, moi et Tommy, on en parlait là, dans nos épisodes sur Ikoria. Je voyais ça venir, là, l'espèce de merge entre la culture populaire absurde d'Hollywood avec Magic. Je dis pas que je compte.
Mais ça a toujours été un petit peu présent. Il y a des petits clins d'œil.
Absolument. Mais là,
il était assez sur le nez.
Puis j'ai pas comme vu dans le sens que ça a plus l'air d'être comme du Aether Storm de Zendikar que. Qu'une tornade de Ikoria.
C'est une tornade de requins. Là.
Il n'y a pas
d'autres interprétations.
Sur Zendikar, des fois, il y a comme des océans qui se mélangent à des angles qui n'ont pas de sens. Ça a plus l'air d'être comme une géographie post-apocalyptique de Zendikar. Je pense pas qu'il y a d'autres places que sur Ikoria.
C'est le bon call, Eman. Mais c'est quand même une tornade de requins dans notre jeu.
Ça reste une tornade de requins. Il manque, il n'y avait plus de place, là. Il aurait dû mettre un petit flavor text quelque part. Hein.
Ouais.
Mais ça reste.
C'est quand même une bonne carte aussi pour les commanders, tu sais, pour les decks multiplayer. Là. Son effet normal d'enchantement, il est quand même fort aussi. Là.
Ouais, j'ai vu souvent des decks de contrôle, le hard casté pour.
Oh, oui.
Après ça, il me faisait un counter spell, puis c'est des requins flying, là. Fait que ça te donne des bloqueurs flying, puis tu peux achever l'autre. Même si c'est un 2-2 flying, t'as pas payé pour quasiment, là.
On s'attend que c'est fort comme enchantement, mais 85% du temps, c'est pas 90.
Dans certaines
circonstances.
Dans les duels, là, t'arrives pas. Moi, je joue beaucoup aggro en standard et en historique là, contre ça. Là. Fait que, tu sais, c'est tout le temps, j'arrive à l'attaquer avec mes créatures, je vois qu'il n'y a pas de bloqueur, tu sais, il hold off avec ses mana bleues. Là, je me dis, il y a soit un counter spell pour counterer mes combat tricks ou il va me cycler un Shark Typhoon d'en face qui va manger ma créature. Puis 9 fois sur 10, il me cycle un Shark Typhoon d'en face.
T'as pas le choix d'attaquer anyway. Tu peux pas attaquer parce que t'as peur qu'il te cycle un Shark Typhoon.
C'est ça. Il va le sortir de toute façon. T'sais, fait que je préfère perdre une créature puis en même temps tuer son Typhoon. Mais des fois, là, si t'attends trop dans le game, là, t'es rendu comme au 5-6e tour, puis là, tu sais, il hold off, mettons, 6 mana, ben il va te flasher un 4-4 flying dans la face. Là, t'sais, fait que ça te vire une game rapidement. Moi, ça, je pense que c'est une des cartes les plus fortes qui a été faite en 2020. Là.
On va en entendre parler encore.
Je le mettrai dans le top 10.
Ça, c'est un potentiel carte de l'année. Hein.
Puis là, on a parlé surtout de son cycling, mais c'est pas vrai que l'enchantement il est pas bon un coup que tu réussis.
On l'a mentionné, c'est que des counterspells, c'est vraiment fort. Là, parce que tu counterspells le spell de l'autre, puis.
Tes spells de removal, les Planeswalker, ça se joue avec les Teferi, c'est assez historique.
Qu'on draftait plus aussi dans le temps, c'était, je veux dire, quand il y en avait un qui te sortait ça, ça devenait une priorité de l'enlever.
Oh, absolument, absolument. Moi, il y a déjà quelqu'un, là, j'avais sacré, il a mis un Shark Typhoon, puis le tour d'après, il a casté Ephara Come Back to Life, là. Pas Ephara, Elspeth,
la saga.
Elspeth Conquers Death. Hey, je l'ai sacré en esti, là.
Parce que là, ça t'enlève un permanent de ouais. trois Kasinkas ou plus. Puis
ouais,
un numéro. Un 5-5 flying en même temps.
Oui, oui. Ouais. Je l'ai pas trouvé drôle.
Oui, non, je comprends.
Puis le Heart. Non, non, c'était standard. Je pense que je me rappelle plus trop. Là,
ça, c'est assez classique. Là, ben
sur oui. Arena. Puis j'aime beaucoup les decks. Il y a beaucoup de gens qui ont du hate contre les decks de cycling parce qu'ils disent que c'est facile, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu fais juste cycler tes cartes. Tu sais, avec le. Puis là, à un moment donné, tu fais le Zenith Flare là, qui fait des dégâts selon toutes tes cartes cycling dans ton graveyard. Mais je sais pas si vous avez déjà joué un deck de cycling. Là.
Un vrai deck de cycling ou le deck de cycling de Ikoria? Parce que
mettons le deck de cycling, c'est le plus récent, mais il y en avait beaucoup dans mon quête aussi, il y en avait beaucoup. Moi, je trouve ça relaxant. Non, mais même le Zenith Flare Poche de Ikoria, là, moi, j'ai aucun shame. Il est dans ma rotation. Là, je joue moins, c'est parce que c'est moins bon maintenant.
Ben, il est cheap,
mais le printemps passé, là, j'ai mis une coupe d'heure là, de jouer ce deck-là. Là, puis t'as pas grand-chose à faire. Hein? Tu cycle, jusqu'à
ça cycle, tu mets un threat sur la table puis tu cycles, tu sais, que ce soit le Stinger qui fait un dégât à chaque fois, que ce soit le petit renard qui monte de 1, qui se met un counter à chaque
t'as
fois.
T'as quand même des décisions à prendre. Ben là,
oui.
T'as des décisions à prendre sur qu'est-ce que tu cycles versus qu'est-ce que tu te gardes à cycler le prochain tour. Puis c'est vrai que c'est plate pour l'adversaire là, parce qu'il a l'impression que tu joues tout seul.
Surtout, mais bon. Surtout sur Arena, là, c'est trigger, slack, pige, là, tout ça.
Ah, c'est long.
Mais tu sais, on pourrait parler longtemps là, du cycling puis surtout de Ikoria, là, ce qui a un peu brisé cet asset-là, particulièrement draft, c'est que ils se sont dit que c'était une bonne idée de mettre cycling 1 colorless.
Oui, très mauvaise idée.
Ça a complètement brisé la patente parce que là, le monde commençait à jouer du noir, du bleu dans le deck blanc-rouge ou du rouge. Puis parce qu'il y avait tout colorless, un cycling, un colorless. Puis ça brisait un peu les pods. Ça mettait qu'il y avait des cartes que la valeur devenait vraiment la valeur devenait vraiment trop élevée pour ce que c'était. Puis là, le monde jouait l'espèce de carte de discard en noir juste parce que c'était cycling 1. Puis c'était super bon dans ton deck Boros Cycling. Ça tirait les couvertures un peu bizarre. Ça
s'explique mal un petit peu aussi quand tu as comme imaginé le spell dans la vraie vie. Là, que
toi, tu avais une bonne théorie, Tommy. On n'a jamais parlé de terrain basique. Tiens, parlons-en puisqu'on parle de cycling. C'est quoi ton interprétation de... Tu sais, la plupart des mécaniques de jeu, on peut interpréter dans le lore qu'est-ce que ça représente. C'est une créature flying à vol. Cycling, c'est un des plus difficiles. Ça n'a comme pas rapport. C'est tu jettes ton spell pour prendre un autre spell. Selon toi, là, dans le multivers, comment ça opère?
Moi, je vois beaucoup la deuxième édition de Donjons et Dragons là-dedans. Fallait que tu étudies tes spells, les magiciens, puis là, tu les mettais comme dans ta tête. Là.
OK.
Pis là, je vois ça comme t'enlèves un spell, un potentiel de spell de ta tête, puis il y en a un autre qui vient prendre sa place.
Tu fais de la place sur le disque dur.
Ouais, c'est pas mal ça. Là. Un delete random change. Puis, veux pas, c'est comme le spellbook du magicien, son deck. Fait que c'est sûr qu'il va sortir d'autres choses de son deck. Là. C'est pas tout à fait random le change, c'est ça que je veux dire.
Dans mon quête, ils ont interprété les cartes cycle avaient beaucoup des hiéroglyphes dans le artwork. Fait qu'ils disaient que c'était comme les résous l'énigme du hiéroglyphe. Fait que tu jettes ta carte, t'en piges une autre. C'était une autre interprétation que je trouvais intéressante.
C'est pas pire, ça. J'aime ça. Ouais. Sinon,
je pensais que c'est peut-être un cycle de vie du spell. Il y a deux étapes dans la vie du spell.
Comme un Caterpie?
Ouais.
Mais non, mais les Caterpies, on s'en vendra. Étapes.
Mais non, mais c'est ça? Mais non, mais OK, mais tu sais, c'est quoi? Je connais rien dans les Pokémon, là, mais...
Pourquoi t'es allé là?
On parle pas de ça ici.
T'aurais pu dire un Pichu. Ah, mais non, mais un Pichu, Pikachu, Raichu. Tu vois, c'est difficile, là.
Alors, mais hey, moi, je jouais beaucoup dans les magasins dans le monde d'avant, là. Tu sais, le monde de pandémie. Puis, il y a un magasin que j'allais, c'était les standards l'après-midi. Puis, Fallait qu'on se dépêchait de finir parce qu'à 2h, le tournoi de Pokémon commençait. Puis, oh my God, man, quand le crowd de Pokémon rentrait dans le magasin, là,
ça criait.
Ben, c'est que c'est des enfants de 11-12 ans avec leur maman Karen.
Ah!
C'est un tag team là, de désagréable.
Hey, fait que je pense qu'on va finir la carte de la semaine avec ça. On vient de finir la carte de la semaine, on s'en va jaser de Zendikar Championship Rising. Rising Zendikar Championship. Après le beat à bon. C'est quoi ça? Ça, c'est encore une affaire de... Ah!
Oh!
Il y a eu un tournoi, c'est pour ça que c'est un championship.
Oh, spoilers. Oui, c'était le dernier gros tournoi qui kickait la saison. Là, je ne commencerai pas à expliquer comment ça marche, là, les points, puis les affaires, puis les MPL, puis la Rivals League, puis les qualifiers, parce qu'on ne finit plus. Moi-même, je ne sais pas comment ça marche. Fait que on va pas se lancer là-dedans. Mais oui, tout ça. Bref, c'est le dernier gros tournoi qui s'est passé en fin de semaine passée. Si vous nous écoutez pas en direct, là, c'était les 4, 5, 6 décembre. C'était un gros tournoi avec 184 compétiteurs qui s'affrontaient dans un format mixte, un peu comme le dernier tournoi dont on s'était parlé. Ils alternaient les matchs en historique et en standard. Puis le dernier tournoi, ça se finissait le top 8, la finale, le dimanche. C'était en standard et cette fois-ci, il était en historique. Ils avaient switch tout ça. Fait que dans le fond, on peut se déplacer là. Je pense que toi, François, t'as pas mal de regarder ça.
Ben, j'ai regardé le match décisif. Okay.
T'as regardé la finale. Rendre, OK. Ben, on peut regarder ensemble un peu comment tout ça s'est passé. Ouais. Moi, j'aime bien ça regarder.
Le méta.
Oui, c'est ça. J'aime bien ça regarder ces tournois-là, surtout parce que ça nous donne une bonne idée de où se situe la méta à ce moment-là. C'est un bon... pris sur le vif, là, un petit portrait de la méta.
Les gens vont copier.
Où est-ce que ça se passe après les derniers bans? Le dernier tournoi, c'était Omnath. Omnath a été parti. Cool, les decks d'aventure ont perdu Lucky Clover, etc. Donc, on pouvait regarder là, que la nouvelle... Surtout du côté standard, là, comment ça s'était replacé. Les decks, là, ça dit ici, là, on voit, là, ça c'était la metagame, là, le pourcentage de combien de decks jouaient à peu près, là, c'est les archétypes. Il y avait beaucoup de gros adventures qui appellent adventures, mais c'est important de le noter que c'est pas juste Adventure, c'est aussi beaucoup de Landfall. Dans le fond, il y a autant de cartes de Landfall que de Adventures parce qu'il y a 4 Stone Crusher Giant, qui est le giant dont l'aventure fait un choc. Là.
C'est très fort, ça.
Ouais. Il y a l'éléphant.
C'est pas juste un choc.
Il y a 4 Love Strike.
Ça peut être prévenu.
Oui. Non seulement ce 2-là ne peut pas être prévenu, mais une fois qu'il est casté, tous les dégâts du tour ne peuvent pas être prévenus. Ça jouait aussi 4 Lovestruck Beast, qui est la belle et la bête, là, hein, le gros 5-5 pour 3, qui à lui seul pas mal arrête tout ce qui s'appelle aggro dans le standard en ce moment. C'est pas mal tenu à distance à cause de Lovestruck Beast qui devient un bloqueur.
Quand même pas
très
mal
difficile à contourner au troisième tour. Son aventure pour 1 permet d'avoir un one drop. Là, souvent, ces decks-là n'ont pas grand-chose à faire tour 1, sauf quand tu joues le Edge Wand Innkeeper, ce qui pousse un peu le deck vers l'aventure plus que le Landfall. Mais c'est tout ce qu'il y avait d'aventure. Ces decks-là jouaient Embercleave, dont on a parlé en masse. Puis les cartes de Landfall, c'était effectivement le Mammouth, le Kazandu Mammouth là, qui, dans le fond, on peut peut-être le retrouver rapidos. Ici, Autumn Burchett qui jouait ça. Hein, le Kazandu Mammouth là, pour un colorless, 2 verts, qui est une 3-3 avec Landfall qui fait +2/+2 à chaque fois qu'il y a un land qui rentre en jeu. Et Brushfire Elemental, ouais. Un rouge et un vert pour une 1-1 à Haste qui peut pas être bloqué par des créatures avec le power de 2 ou moins, qui a le même power, le même Landfall trigger, le +2/+2 à chaque fois qu'il y a un land qui rentre en jeu. Fait que t'sais, vous voyez que ça jouait quasiment autant là, d'aventure.
Questing Beast, c'est pas de problème.
Questing Beast.
Il n'y a pas grand-chose qui vienne de Ikoria, hein, de vite.
Dans ce deck-là, non.
Non.
Moi, j'ai trouvé qu'Ikoria est pas mal absent quand même.
Il y avait le Vivienne là, ici. Ouais, c'est pas mal ça. Là, dans ce deck-là.
Direct damage, là, ça, ici.
Fire Prophecy.
Mais ça, c'était une carte de sideboard là, assez. Ouais, surtout pour le Mirror Match, là, je te dirais. Là,
puis on est encore dans les. Comment je pourrais dire. Voilà. Mayul.
Ben non, c'est pas si t'as quelque chose à dire. Mais ça jouait aussi, dans le fond, là, c'était un deck qui jouait assez aggro, attaquer, finisher avec le Ember Cleave, puis qui avait une capacité de se remplir assez rapidement grâce justement au Edgewall Innkeeper et les cartes d'aventure, mais aussi au Great Henge, que je pense que t'as mis tout à tu avais dormi un petit peu là-dessus dernièrement. Là, ça, c'est, quand on en a parlé, tu étais un peu surpris. Là, c'est le Great End chez le Legendary Artifact. Il avait fait un cycle dans Eldraine. Chaque couleur avait le sien. On voyait surtout le rouge puis le vert. Là, c'est ceux qui sont les plus joués. Le bleu puis le blanc puis le noir, on n'en parle pas trop. Là. Le Cauldron, le Circle of Loyalty puis le Mirror machin. Là. Ouais. Great End, c'est... 7 colorless, 2 verts. Ça coûte cher, mais il coûte X de moins, où X est le greatest power among creatures you control. Donc ça, souvent, un classique de ce deck-là, c'était un tour 3, Kazandu Mammoth. Tour 4, dropper un Fabled Passage, le craquer. Fait que là, ton Kazandu Mammoth, il est rendu une 7-7. Fait que ton Great Henge te coûte 2, tour 4. C'est très fort parce que tu le tapes pour faire...
Deux.
Ouais, c'est ça. Il se repaye. C'est très fort parce que tu le tapes pour faire 2 manovers, gagner 2 de vie. Mais surtout, le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un non-token creature qui arrive en jeu, tu mets +1/+1 dessus, puis tu piges une carte. Fait que là, tu continues. Puis là, si c'est une autre créature, ben, t'ajoutes, tu piges une autre carte.
On a compris, là. Cruel, Emmanuel.
Fait que oui, ça permettait à ce deck-là de pas trop
sortir tes gros artefacts le plus vite possible. Puis anyway, avec des Questing Beasts, puis des mammouths, puis le géant, puis la Questing la Love Struck Beast. T'as tout le temps comme un bon monstre pas loin pour venir. Oh, ça aussi.
Oui, Jason. Okay.
Il y a un truc qui m'intrigue. J'ai vu que, autre le fait, comme je mentionnais au début, que Eldraine est partout, là, t'as 34 sur 60 dans le main deck qui sort de Eldraine. Ouais. Mais il y a une carte de Terros Beyond Death, The Acroan War. Yes. Il en joue une. Ouais. Ça m'intrigue. L'as-tu vu jouer ça? C'était quoi sa stratégie avec ça?
Ça, c'est dans les decks qui jouent du rouge, c'est depuis un mois et demi. C'est une carte qui voit de plus en plus de play parce que c'est très bon contre les decks de créatures adverses. Uh-huh. Que ce soit le match miroir contre les autres Gruul Adventures, parce que ça arrive souvent, parce que tu voles sa plus grosse créature. Puis là, après ça, sur le tour suivant, il doit t'attaquer. Fait que là, tu crées des bons blocs pour pouvoir gérer ses créatures. Puis, puis après ça, ben, ça fait comme un board sweep, là, parce que ça, ouais. toutes les créatures se font un peu de
dégâts.
Ben oui, j'ai essayé pas mal ce deck-là sur Arena, là, mais c'est l'autre deck d'après que j'ai préféré, là, Rogue. L'autre après, c'est Mono Green, mais sinon, après, c'est ça, c'est Dimir Rogue. Ça,
On va revenir dessus.
Ah, mais là, mais il y a Bosch, là. Ça, c'est cool. Lui, il est cool.
Ben ça, c'est intéressant à voir. Il y avait aussi un deck de Temur Adventures, là, si on va rapido là, avec les aventures. Qui servait surtout, lui c'était plus pour ramper, servir des Hunter de Battlefield Effect avec Edgewall and Keeper, puis faire un gros Genesis Ultimatum ouais. mettre plein d'affaires en jeu. T'avais les Landfall, le Trigger avec le Lotus Cobra, etc. Là. Fait que c'était quand même intéressant, mais c'était un petit peu plus dur à popper. La nouvelle version, on est encore dans Eldraine. On le voit, là, le vert a eu différentes itérations, mais là, celle-là, c'était le Mono Green Food qui était basé beaucoup sur les trois cartes qu'on voit là, là, ben, Gilded Ghost pour créer ça, du food, là, mais c'est surtout le Wicked Wolf puis le Feasting Troll King qui sont des créatures, dans le fond, qui étaient difficiles à gérer parce que le Wicked Wolf, il sera indestructible quand tu sacrifies un food token. Tu peux sacrifier un food token pour le rendre indestructible et lui mettre un +1/+1. Quand il rentre en jeu, il fight une autre créature.
Ça me semble, il y a un enchantement en vert qui met des foods dans...
Trail of Crumbs.
C'est ça.
Trail of Crumbs qui permet de faire aussi, quand tu sacrifies un food, tu peux regarder les deux premières cartes puis tu peux mettre une de ces cartes-là en jeu si c'est une créature ou un land. Puis le Feasting Troll King qui est lui aussi très difficile à gérer parce que dans le fond c'est un 2 colorless 4 verts pour une 7-6 avec Trample et Vigilance que dans le fond quand tu la mets en jeu tu crées 3 food tokens puis tu peux sacrifier 3 food tokens pour le ramener du graveyard directement en jeu. Fait que c'est très fort, puis si tu la tues, ben tu peux la ramener parce que là, il a refait lui-même ses trois.
Ça, je trouve ça cool parce que cette carte-là, là, moi j'avais vu personne la jouer avant. Ouais. Tu sais, Eldraine est sorti en septembre 2019, ouais. Puis j'ai vu personne faire des decks sérieux avec ça avant ce mois-ci. Puis je trouve ça fantastique.
C'est vrai, ça avait sorti un petit peu l'archétype food dans le temps de Oko, parce que Oko, il faisait du food. Des food à côté.
C'est vrai ça.
Mais sinon, après ça, ça s'était tombé un petit peu plus dans l'oubli, là, mais c'est parce que ça fait une grosse créature, tu sais, quand même pour un bon prix.
Puis trois food, c'est quand même bon. Puis si, mettons,
est-ce qu'il se revient des
trois food pour le ramener, ben il recrée encore trois food quand il arrive.
Non, c'est if you cast it from your hand.
Ah, ben voilà.
C'est pas infini.
Il y a des grands anglais dans ma face, excuse-moi.
Non, mais je l'avais pas précisé.
C'est quand même fatiguant, en estime. J'ai pas perdu contre ce deck-là.
Ouais.
À cause de lui.
Ouais, puis effectivement, ça, on a parlé en masse là, la dernière fois qu'on s'est parlé du méta, Dimir Rogues, qui est comme un mix aggro, mill, contrôle selon la version. Là, il y a une version qui joue avec l'Urus qui est un peu plus basse.
Mais sans ça, quand je joue ce deck-là, Steve.
Il est le fun. Tu joues-tu la version avec l'Urus ou la version avec Zaretsan?
Non, je joue pas avec le légendaire.
OK.
Ça dépend de comment que ça se passe. C'est soit, tu sais, si ça dure longtemps, je vais le miller, mais le plus rapide, ce qu'on veut le plus rapidement, c'est avoir 8 cartes dans le graveyard. Ouais,
c'est ça qui est le fun avec ce deck de 1000-là, parce que c'est pas un deck de 1000 classique, c'est un deck de 1000 qui s'appuie sur ses créatures.
Ouais.
Fait qu'il y a un plan de match. C'est pas un deck comme avec Teferi's Tutelage, que quand tu piges, tu fais miller, puis là tu piges d'autres cartes, puis là tu fais miller l'autre, puis là tu piges, puis là tu counterspell, puis tu piges une carte, puis là tu milles, puis là tu enlèves, puis là tu bounces la carte, puis là tu... C'est un deck un peu plus proactif, dont le 1000 est une condition de victoire.
Ouais, tu joues souvent pendant le tour de l'autre. Là, ça, c'est
ouais, il y a beaucoup de créatures avec flash.
Ouais.
Fait que ça ressemblait à ça. Là. Il y avait le Dimir Control aussi qui avait monté beaucoup. Là. On s'était parlé la dernière fois. Vous m'avez demandé avec les nouveaux bans, qu'est-ce qui s'en vient. Là. Puis j'avais dit que ça allait être plus les deux ranges, là, peut-être plus aggro à cause d'Embercleave, puis le contrôle, parce que le mid-range avait perdu à cause de Lucky Clover, puis les aventures. Puis on le voit là avec ça. Puis la version contrôle, c'est les deux ici, là, c'est Dimir, puis Esper, avec
Doom Foretold. C'est que j'ai eu ça. Le Doom Foretold, là, je veux mourir. Hein.
Mais c'est parce que c'est comme un board wipe, mais que tu es obligé de faire toi-même petit à petit. Parce qu'à chaque tour, il faut que tu sacrifies un permanent.
C'est le fun que ça soit revenu. Ça. Moi, c'est une carte qu'on a poignée souvent quand on faisait des drafts. Puis je trouvais qu'elle était plus forte que ce que le monde l'utilisait, entre guillemets. Puis je suis content que ça soit revenu.
Elle a déjà été une carte de la semaine.
Il n'y a pas encore de deck de 1000. Ben, là, vous venez d'en parler d'un comme ça, mais il me semble depuis qu'on fait ça, il n'y a jamais eu un deck de 1000 qui gagnait tout. Là.
Ben, Rogue. Ouais, non, je te dis, 2020, là, c'est l'année du 1000.
L'année du 1000, c'est.
Il y avait 2010. Il y avait 2010 qu'on avait eu pas mal, là, mais 2010. Moi, j'ai jamais. Non, mais je veux dire, c'est l'année où ça fait plusieurs années là, qu'ils poussent 1000. Là. Puis ben, là, ils l'ont poussé très fort dans les derniers sets.
On parlait d'Eldraine. Dans Eldraine, c'était en draft, là, surtout. C'était assez, ouais. Assez il y avait facile des monstres de se faire avec Merfolk, Secret Keeper, puis des Runaway Together. Là, c'était.
Moi, j'ai surtout méchant, joué là. Du 1000 en standard cette année. Ouais, mon deck bleu, que j'avais fait un article dessus. Puis comme là, je suis content de voir que là, il y a, tu sais, avec les rogues, puis t'as le Ashiok dans Terros aussi.
Ouais.
Fait que c'est le fun pour les joueurs qui veulent gagner que du 1000, c'est votre année.
Il y a quelqu'un qui a gagné là, là-dedans. C'est quoi qu'on
s'en là, c'est ça. Là, dans le fond, ce que je vous montre ici, là, c'est les. Parce que le top 8 était joué en historique. Fait que, tu sais, il y avait 8 matchs de standard puis 7 matchs d'historique dans les deux premières journées. Je vous montre ici là, les decklists, dans le fond, qui ont réussi à faire 21 points ou plus. Là, fait qu'ils ont performé puis qui ont aidé le monde à finir justement dans le top 8. Fait que vous remarquez qu'il y a beaucoup de Grill Adventures.
Ouais.
C'est presque juste ça. Mais après ça, tu sais, c'était pas avec ces decks-là qui allaient jouer la finale.
Puis même, mettons, Mono Green Foods, ça peut ressembler à du Gruul Adventure d'une certaine manière. C'est...
Ben, il y avait des cartes qui se ressemblaient. Ouais. Par exemple, les deux cartes qui étaient les plus jouées, qui n'étaient pas des lands, c'était le Lovestruck Beast et le Kazandu Mammoth, ouais. Si ma mémoire est bonne. Fait que, ouais c'est ça. T'sais, avec 408 copies, il y avait ça jouait beaucoup de Love Struck Beast parce que justement, et le Gruul Adventures et le Mono Green Food jouaient ben oui. Le Love Struck Beast.
Mais ça m'a surpris qu'il n'y ait pas tant de decks mono rouge parce que sur Arena, je l'essaie et ça tue en crise.
Mais ça tue, mais comme je te dis, il y avait, dans la méta actuelle, il y avait pas. Mono rouge n'était pas bien positionné justement parce que Gruul Adventures et Mono Green Food,
Frank,
il gère très bien le mono rouge.
Sur Arena, tu joues en best of one ou en 2-3?
Ça aussi.
Ouais, souvent en best of one.
Tout ouais, le temps en best of one. Ça fait une bonne différence.
Mono rouge est très fort en best of one, mais en 2-3, il va gagner le premier match puis il va perdre les deux autres parce que là, le joueur de contrôle ou de Dimir Adventure, il va aller chercher ses tueurs de mono rouge dans son sideboard puis c'est fini. Là.
Ouais.
Ça a tout le temps été le problème de mono rouge en fait. Là.
Ouais, mais effectivement, tu vois, il y a une personne qui avait pris mono rouge. On sait pas comment il a fait, là, mais bon. Ouais. Fait que oui, effectivement, il y avait pas beaucoup de aggro classique. Là.
Si tu peux être trop fort.
Ouais, c'est vert trop
ça,
fort.
Ça, on peut se le dire. fait que tout ça nous amène
le nouveau bleu.
Ouais, tout ça nous amène au dans le fond à l'aspect historique.
La finale.
Parce que c'était avec ça que se jouait la finale, fait que c'est un peu plus important. On voit le field là, de quoi ça avait l'air. C'était quand même assez bien réparti, mais surtout contrôlé par June Sacrifice qui revient tout le temps. Ce qui est intéressant à noter pour historique, c'est qu'il venait de sortir Kaladesh Remastered.
Oui.
Qui amenait du nouveau stock, du nouveau matos aux joueurs de historique, plein de nouvelles cartes.
La Kaladesh.
plein de vieilles nouvelles cartes là, tu sais, fait qu'on se demandait à quel point ça allait affecter
la Kaladesh,
la méta. puis pas tant que ça finalement, tu sais, il y a beaucoup de cartes qui ont été incluses là, on pense principalement à Fatal
Push.
Qui est une excellente carte, surtout quand tu la mets dans une méta où il y a Fable Passage, parce que Fatal Push, hein, c'est pour un noir, tu détruis un target creature qui a un converted mana cost de 2 ou moins, et puis il y avait le keyword révolte de Kaladesh que s'il y a un permanent qui avait quitté ton battlefield ce tour-ci, c'est un effet supplémentaire, ben là c'est mana cost 4 à la place avec révolte, puis on s'entend qu'un Fable Passage, c'est un très bon une très belle façon de trigger révolte.
Ouais,
Donc, tu avais le classique, le Rakdos, puis John Sacrifice, là, avec le chat, les Wolf Rider, etc. Là, on les a vus.
C'était pas illégal,
avec
aucune fierté.
Pas en standard, il a été banni, mais pas en historique. Fait que, historique, t'as le Witch Oven, puis le chat,
je comprends. Puis, on a aussi parlé au dernier tournoi. C'est ça qui avait remporté le dernier gros tournoi des historiques. C'est le Sultai Midrange, qui inclut également le Four Color Midrange, qui est sensiblement la même liste, mais qui ajoutait Yasharn. Je dois l'avoir pas loin, là. Qui est le gros Elemental Boar. Dans le fond, souvent, il jouait le blanc pratiquement juste pour Yasharn. S'il se sentait un peu spicy, il ajoutait le Teferi Hero of Dominaria de Dominaria. Dans le fond, ce qu'il faisait, c'est que c'est surtout pour les personnes ne pouvaient pas payer de la vie ou sacrifier des permanents pour caster des spells ou activer des habilités. Donc, ça fermait beaucoup justement June Sacrifice. On a vu que c'était une grosse partie du field. Et aussi les gobelins qui revenaient aussi un petit peu. Là, ils avaient pris une petite pause
ben oui.
au dernier tournoi. Les gobelins revenaient. Mais on pourra regarder là, justement, ça va être intéressant. On peut regarder. On parlait tantôt de Autumn Burchett qui jouait Gruul Adventures. C'est la seule qui avait terminé la première journée undefeated. C'est elle qui a terminé première à la fin de la deuxième journée. Si on regarde ici le bracket, là, elle a fini après ça et ils se sont affrontés en demi-finale. Elle est allée attendre que le loser bracket se finisse pour la deuxième demi-finale qu'elle a gagnée, puis s'est inclinée en finale avec son deck de gobelins, justement, qui était un peu moins tu sais, d'une seule. Il n'était pas si aggro que ça.
Il était un peu toolbox.
Exactement. C'était pas un one-trick pony. Là, parce qu'il ne se dépendait pas juste de mettre d'avoir des Skirk Prospector que tu peux sacrifier des gobelins pour faire du mana, pour faire un Muxus le plus vite possible. Il y avait les Krenko qui étaient une autre condition de victoire. Les Gumblin Chieftain qui permettaient d'aller large puis en haste. Et intéressant de noter, là, c'est qu'elle avait inclus deux colorless, deux artefacts. Le Mindstone pour du ramp.
Ça, j'ai pas compris son Mindstone.
Le Mindstone, c'est un peu la colle de l'historique. Là,
c'est bon, Mindstone.
Ouais, bon, parce j'ai regardé ses matchs et ça restait dans ses mains tout le temps. Quasiment.
Ben, dans ces cas-là, oui, là, mais je veux dire, d'habitude, ça, c'est comme c'est le petit-fils de Phil Warstone. Là, pis ouais. Tu sors autour d'eux, ça donne un mana advantage. Là, tu vas
capter. Ben, c'est ça, c'est du ramp.
C'est du ramp.
Qui permet d'approcher du Muxus. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au dernier tournoi, il y avait tellement de deck adventures, tout le monde sideboardait ou même mainboardait du artefact 8, là, de quoi être pour dealer contre les artefacts. Puis là, le Clover, il était parti. Il y en avait beaucoup moins. Fait que les artefacts sont revenus un peu plus en puissance. Là, fait que le Herald's Horn qui permettait de justement, ça faisait un peu le même effet parce que ça réduisait le coût de tous tes gobelins, mais ça te donnait aussi du card advantage parce que au début de ton tour, tu regardes la première carte, puis si c'est un gobelin, tu peux la mettre direct dans ta main, puis après ça, tu piches.
Tu veux me montrer c'est quoi le Conspicuous Snoop?
Le Conspicuous Snoop, c'est une carte qui fait un petit peu le même effet, mais c'est très fort quoi, dans ce deck-là. Ouais. Moi, j'adore le art, d'ailleurs, en passant sur cette carte-là. c'est le CNE des gobelins. Ils regardent par la fenêtre, le nez collé. Pour deux rouges, c'est une 2-2. Et tu joues avec la carte de ta library, la première carte virée. Si c'est un gobelin, tu peux la jouer directement. Mais également, le Conspicuous Snoop a les habilités de ce gobelin-là qui est sur le top de ta library. Fait que si t'as pas le mana puis que t'as le Conspicuous Snoop en jeu et que sur le top de ta library t'as un Krenko Bob Boss, tu peux l'activer. Ou t'attends à ton upkeep avant de la piger, t'actives ton Conspicuous Snoop.
Puis, tu sors ton Krenko.
Tu sors ton Krenko avec un Chieftain qui lui donne Ace.
L'autre, le Skirk Prospector, ben là, hey boy, ça, ouais, ça.
Tu comprends un peu le.
J'aime ça, ce deck-là, moi.
Le mindset. Oui, c'est, moi j'ai toujours été un fan des decks de gobelins. Là, fait que c'est le fun d'avoir.
Moi aussi.
C'est le fun d'avoir un deck de gobelins viable et compétitif.
Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il n'y a pas de deck d'elfes viable et compétitif dans ce que tu nous as montré.
Ah!
C'est déjà arrivé, mais ça fait un bout.
Ben, y en a qui essaient d'en faire un là, en ce moment avec Paradox Engine.
messieurs, je vais devoir vous laisser. J'ai une mission papa qui m'appelle.
Ah ouais.
Fait que je vous laisse. Je suis vraiment désolé, mais je vous laisse continuer. Tu fais bien ça.
Écoute, tant que tu apprends à tes enfants à jouer à Magic, on est correct. Merci, Jason, d'être notaire et basique. On se rejoint.
Désolé.
Il n'y a pas de problème. Salut, Ben.
Et donc, on poursuit ça. On est deep dans le historique. Je vois encore du Uro. C'est le fun de voir le
Uro. Uro, il est resté. Oui. Ouais, dans le fond, c'est des classiques qu'on a déjà vus. Ce qui est intéressant de noter, là, si on regarde là, ce qui s'est rendu dans le top 8, là, c'était presque juste du Sultai ou du Four Color Midrange. Avec justement des Uro, Casualties of War, Tautsies, les classiques comme mix control puis créature puis beaucoup de color de beaucoup de card advantage puis de value là. C'était 6 sur 8 qui avait fait le top 8. C'était ce deck là, ce type de deck là, et les seuls ceux qui étaient hors de ça, c'était Autumn Burchett avec son deck de gobelins et
on se
Brad
de lui, il était là la dernière fois.
Qui ça, Brad Barclay?
Autumn Burchett, c'est pas la première fois.
C'est elle. C'est elle.
Bon, puis, elle, désolé. Ouais.
Brad Barclay, qui est pas un nouveau venu, mais c'était son premier gros top 8 là, de gros tournoi, qui lui non plus jouait pas sur le taille. Il jouait Azorius Control. Donc, blanc-bleu, puis vraiment classique. Avec.
Il a gagné toutes ses games.
Puis il a gagné tous ses matchs en historique, incluant ceux dans le... dans le tournoi, dans le top 8. Tu vois, là, il y a juste ici eu un petit... Il a gagné tous ses match-up. Il a terminé en défaite en historique. Il en avait perdu en standard. Là. C'est pour ça qu'il n'avait pas terminé premier. Là. Puis, ils se sont ramassés pour la demi-finale et la finale. Fait qu'ils ont joué plusieurs fois un contre l'autre. Puis, en finale, en plus de ce tournoi-là, c'était un 2-2-3. Fait que c'était quand même... Tu les as tous regardés, François. C'est quand même assez long. Là.
C'est un peu long.
Tu peux pas changer tes decks un coup que c'est commencé.
Près, non, c'est ça.
C'est, ben, tu peux fouiller dans ton side deck, là, mais...
Mais ce qui était intéressant, tu vois, là, c'était une petite tranche du méta qui était le Azorius Control, mais lui, il avait sizé un petit peu justement le field, que ça allait être beaucoup Rakdos, Pigeon Sacrifice, puis du midrange, puis les gobelins. Puis c'était un deck qui avait quand même un bon match-up contre tout ça. C'est un deck qui est pas considéré comme tier 1 là, dans la méta actuelle du historique, qui est quasiment même tier 3, mais qui était bien placé dans ce tournoi-là. Il a très bien piloté.
Aussi, il y avait tout le temps les couleurs fortes contre eux autres.
Oui, mais c'est tough contre les gobelins. Il faut que tu l'arrêtes. Si
pas ton Wrath of God avant le 7e tour, il y a de bonnes chances qu'il soit brûlé.
C'est ça. Puis c'est un deck qui n'a pas beaucoup de win condition, là, qui est très lent. C'est les Shark Typhoon dont on a parlé.
C'est des games longues avec ce deck-là.
Oui, tout à fait.
Ben, c'est un contrôle. On ne réinventera pas ça.
Sinon, Castle à Ardenvale, ça c'est un peu un meme avec les joueurs de contrôle. Quoi, Castle under Ardenvale, c'est pas une win condition, ben tu te fais comme une 1-1 à toutes les tours. Mais sinon, il n'y a aucune créature. Mais ça jouait les Teferi, Hero of Dominaria, beaucoup de counter spell, beaucoup de removal. Il y avait main deck, il y avait quatre Wrath of God, là, on s'entend là. Puis, donc
mais voilà. Alors...
Hein?
Je n'aurais mis 5, moi.
Oui, oui. Il en aurait probablement mis 5, effectivement, s'il n'y avait plus. Mais il y avait un Shatter de Sky dans son.
Ouais.
Dans son sideboard. Là.
On a besoin souvent, sérieux.
Ouais.
C'est que le monde est capoté. Ouais. Fait que, dans le fond, les gentils ont gagné, les gobelins ont été repoussés.
Ça dépend du point de vue, là, mais oui, oui.
Bon.
Blanc bleu, tu vois, lui, il jouait en standard, il jouait contre contrôle aussi. Lui, il jouait Dimir contrôle. Là, fait que lui, il était allé all-in contrôle sur tous les fronts. Puis ça lui a bien servi.
C'est quand même weird, ça, ce format de tournoi-là, qu'il faut que tu t'amènes deux decks sur deux étapes différentes. C'est difficile pour nous autres qui sommes. Ben, je veux dire, ça nous donne plus de stock à spinner de l'info, là, mais je veux dire, c'est difficile de tirer quelque chose comme un deck définitif ou une carte plus forte que les autres ou une dynamique qui détruit l'équité de ce beau jeu qu'est Magic the Gathering. On a notre gagnant, c'est Barclay, c'est ça?
Oui, Brad Barclay, l'Écossais. Ouais.
Ah, maintenant, qu'est-ce que... Merci, man. C'est vraiment cool. Moi, ces épisodes de Sport 30, là, je les aime de plus en plus.
T'as-tu quelque chose à rajouter, François, là-dessus?
J'ai bien parlé.
Fait que ça nous
amène le gagnant gagnait 250 000 $ de ce que j'ai entendu dire.
C'est-tu 250? C'est pas la bourse totale?
En tout cas, un bon. Faites vos recherches.
Ouais. Ben, je pense que c'est la bourse totale, là, mais.
Puis ça, pour commencer, c'est du monde qui sont bons sur Arena, mettons. Là,
ça dépendait. Là. Ces gros-là, comme tu vois, là, dans les 184, il y avait une partie qui était sélectionnée avec les. Dans le fond, quand le monde finisse dans le top 1200, il y a un qualifier weekend qui te permet de te qualifier pour ces tournois-là.
Mais sinon, ça passe par Arena, mettons, aller.
En partie, sinon, tu as tous les joueurs de la MPL, la Magic Pro League, de la Rivals League, qui est une autre affaire. En tout cas, comme j'ai dit au début, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de
petits cossins. C'est un peu compliqué. Il y a tout le monde des professionnels qui gèrent ça. Puis là, on a le champion 2020 de Magic the Gathering.
Zendikar Rising Championship.
Et voilà, c'est un gars qui va pouvoir se faire dans les bars par plein de monde, mais qui a fait 250 000 $, qui devrait pouvoir aller dans des beaux bars, ça fait dire comme du monde. Hey, merci bien gros, Lompré.
Ça m'a fait plaisir.
C'est ce qu'on a gaulé ça. Merci, Eman. C'est tout un plaisir de passer des terrains basiques avec
vous. Si tu rock, Crusader.
Crusader, là-dessus, j'invite tous nos auditeurs. C'est quoi déjà? À checker, hein? On est disponible sur Spotify.
C'est vrai.
Sinon, on a de la merch en ligne. Elle va changer bientôt, la merch, parce que les avocats, ils
c'est un peu en lien à ce qu'on a jasé.
Les logos. je vais le dire à tout le monde. Là, c'est le temps de vous en acheter là si vous voulez avoir du vintage, parce qu'on va changer le logo. Puis sinon, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Faites attention à la magie. Il me semble qu'il y a tout le temps une affaire que j'oublie rendu là. Ça me va de même. Je vous souhaite à tous et à toutes, au nom de Tommy Godette et de toute l'équipe de Terrain Basique, d'être le moins manasculé possible.
De la famille H2O Web Media.